Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la matinale du Studio Tamani. Voici les titres. Le Niger a accueilli ce jeudi le 33e sommet de l'Union africaine. Au menu de cette rencontre, les modalités de fonctionnement de l'accord de libre-échange continental africain et la question sécuritaire et migratoire sur le continent. L'identification des personnes qui entravent à la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali est au cœur des échanges du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni hier mardi à New York. La France a déjà proposé 5 noms ajoutés à la liste noire de l'organisation. Sport Cannes Égypte 2019. Les Aigles du Mali terminent premier de la poule E avec 7 points et affronteront la Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. À la présentation, Mariam Meiga. Le 33e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce jeudi à Niamey, au Niger. En prélude à ce sommet, les rencontres préparatoires des experts et des ministres d'État ont débuté. Plusieurs sujets seront au menu, notamment les modalités de fonctionnement de l'accord de libre-échange continental africain, mais aussi la question sécuritaire et migratoire. Réfugiés, rapatriés ou personnes déplacées vers des solutions durables au développement forcé en Afrique. C'est le thème de ce 33e sommet de l'UIA. Les détails avec notre envoyé spécial à Niamey, Assetou Kanté.
À 2 jours de l'ouverture du sommet, les rencontres préparatoires s'accélèrent au niveau de l'organisation. Près de 5000 personnes sont attendues à ce sommet, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers de l'Afrique. Un important dispositif sécuritaire est visible dans la capitale Niamey. Les enjeux et les défis de cette rencontre sont nombreux, dont l'un d'eux reste la lutte contre le terrorisme, mais aussi l'entrée en vigueur de la ZELEC, l'accord de libre-échange continental africain. Plusieurs réunions auront donc lieu, notamment la rencontre des premiers ministres, un symposium international de la jeunesse sur la prévention de l'extrémisme violent et la migration, mais aussi la rencontre des premières dames d'Afrique sur le cancer. La cérémonie officielle d'ouverture du sommet est prévue pour le dimanche 7 juillet avec la réunion des chefs d'État. Ce 33e sommet de l'Union africaine intervient au moment où une attaque a eu lieu ce lundi à la base d'Inatèse dans la région de Tillabéri, à la frontière entre le Mali et le Niger. Selon les autorités nigériennes, un bilan officiel fait état de 18 militaires tués et 4 portés disparus. Assetou Kanté depuis Niamey pour Studio Tamani.
Jusqu'au 8 juillet prochain, vous pouvez suivre dans nos différentes éditions une série de reportages, d'interviews et portraits réalisés par notre envoyé spécial à Niamey, au Niger. Ces productions s'inscrivent dans le cadre des échanges entre les projets de la Fondation Hirondelle au Mali et au Niger. Ce sommet des chefs d'État de l'Union africaine intervient au moment où la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annonce la création d'une nouvelle monnaie unique à partir de 2020. Pour certains économistes, même si cette monnaie appelée ECO va permettre à ces pays d'être plus indépendants, il faut au préalable une application réelle des États africains. Professeur Mamoutou Soumaré est économiste. Il était l'un des invités du Grand Dialogue qui parlait de ce thème.
D'un point de vue économique, la création est bonne, avec tous les relents qu'il y a par rapport au franc CFA, la fixité du franc CFA par rapport à l'euro. Si on regarde la zone CFA, la majorité des échanges ne se font pas entre les pays de la zone CFA. La majorité se fait vers l'extérieur de l'Afrique. Je parlais tout à l'heure de la zone CEMAC, il n'y a quasiment pas d'échange entre ces deux zones. Donc ça également, c'est un problème qu'il faudra analyser.
Donc justement, à quoi est-ce que ça va servir?
Ça va servir bien sûr à la souveraineté africaine de la monnaie. Ça va également permettre, comme je disais tout à l'heure, d'agréger d'autres pays. Il faut que tous les États aillent de bonne foi dans la mise en place de la monnaie unique.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant nos publications sur Facebook et Twitter où vous pouvez également recevoir nos informations. Il suffit tout juste d'envoyer Studio Tamani par WhatsApp au 77 01 58 01. Une base militaire transformée en champ de réunion. Un an après l'attaque terroriste qui l'a frappé, l'ex-QG de la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré est resté en l'état. Cette attaque survenue un 29 juillet a fait au moins 3 morts et des blessés. Portes fermées, toiture effondrée, le décor dénote de la violence de l'attaque. Un an après les événements, une équipe de Studio Tamani est retournée sur les lieux, suivant ce reportage de Mohamed Ali.
L'attaque terroriste s'est produite ce jour-là au moment de la grande prière de vendredi. Nous expliquent les habitants de Mopti qui se souviennent encore comme si c'était hier. Au moins 5 kamikazes étaient à bord d'un véhicule bélier piégé, immatriculé CUCR, Comité international de la Croix-Rouge. Il s'est fait exploser devant le camp de la force G5 Sahel qui occupait une partie de la cour de l'armée de terre à Sévaré. L'attaque qui a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, a été un moment de choc pour les populations de Mopti. Et le G5 a dû transférer son siège à Bamako. Sur les lieux, les impacts de la déflagration sont encore visibles sur le bâtiment. Le moteur du véhicule kamikaze est encore sur place. L'armée malienne a placé une sentinelle car le site est une partie de son camp. Un an après cette attaque terroriste, l'insécurité s'est plus accentuée dans la région de Mopti. Cela malgré la présence des forces étrangères en appui à l'armée malienne. Mohamed Ali Agalaïda, de retour de Mopti pour Studio Tamani.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi à New York pour identifier et imposer des sanctions aux personnes qui font obstruction à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cependant, même si la France a déjà proposé 5 noms sur la liste noire, certains observateurs restent sceptiques sur l'impact de ces sanctions sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Les détails avec Intala Agbilal.
La France a proposé 5 noms à ajouter à la liste noire de l'ONU. Il s'agit du député Mohamed Ould Matali, membre du parti majoritaire et homme d'affaires infiliant au Nord. Ould Matali est accusé par la France d'entrave à l'application de l'accord pour la paix. Le deuxième est Oukaouka Galhousseni, ce tristement célèbre juge dans Sardine à Tombouctou libéré il y a 4 ans à la suite d'un accord entre le gouvernement et les groupes armés. Selon certaines sources locales, ce cadi est toujours actif et proche des chefs terroristes Yahya Abou al-Khammam et Talha al-Libi. Le troisième sur cette liste est Yoro Ouldaha, chef militaire du MAA. Ce dernier, accusé de connivence avec les groupes terroristes, avait échappé en 2018 à un assassinat à Gao. Quant au quatrième, Mohamed Ben Ahmed Mahri, il est accusé de ravitailler ses groupes puisqu'il sera fils en armement et en carburant. Cependant, Ahmed Ag al-Bachar, cinquième sur la liste, est cité dans le détournement de l'aide humanitaire à des fins commerciales ou contre d'autres services à Kidal. En cas de validation par l'ONU, ces personnes seront frappées par une interdiction de voyager dans le monde et d'un gel des avoirs pour avoir entravé le processus de paix au Mali. Il faut rappeler que l'actuel président de la coordination d'un mouvement de l'entente, Mohamed Ousmane Mohamedoun, et 12 autres personnes sont déjà sur cette liste de sanctions et ont été interdits de voyager à l'extérieur du Mali.
En 2016, près de 2 millions de personnes ont perdu la vie du fait de leur exposition à certaines substances chimiques. Ces chiffres ont été communiqués la semaine dernière au cours d'un atelier sur la gestion des produits chimiques. Cependant, selon les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, les couches les plus vulnérables de cet empoisonnement sont les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les détails avec Mahaman Babakunta.
Les spécialistes sont catégoriques. Les substances chimiques et leurs dérivés sont dangereux et néfastes pour la santé publique malgré leur importance dans la production agricole ou économique. Selon eux, l'utilisation de ces produits doit être rationnelle. Moussa Aghamma, ingénieur sanitaire.
Mais le problème que nous avons chez nous, c'est que ces produits sont utilisés de façon abusive et souvent utilisés par des gens qui ne sont pas habilités à les utiliser. Les produits chimiques les plus utilisés au Mali sont plutôt les pesticides qui sont largement utilisés dans le domaine agricole. Quand on prend l'orpaillage artisanal, vous avez malheureusement l'utilisation du mercure qui est présente, en tout cas sur le terrain. Au niveau des mines industrielles, vous avez d'autres types de produits, notamment les cyanides, par exemple, qui sont utilisés au niveau de ces mines. Même si, au niveau en tout cas des mines industrielles, cette utilisation est quand même contrôlée.
Cependant, les avis divergent sur la question au sein de l'opinion. Si pour certains Bamakois, les autorités sont responsables de cette problématique, d'autres pointent du doigt l'utilisation abusive que certains citoyens font de ces produits sans tenir compte de leur effet néfaste. Ils demandent tous à l'État de mener des campagnes de sensibilisation pour réduire les conséquences de ces produits sur la santé des populations.
C'est un couteau à double tranchant parce qu'avec la démographie, il faut nourrir le plus grand nombre d'humains, donc faire beaucoup de production. Par contre, si on regarde les choses du point de vue santé, rien ne vaut que la santé.
L'eau du fleuve, on peut même dire que c'est même un poison. Tu n'as pas vu, même la salade, on utilise l'eau de Javel, mais rien à faire. Tout le monde a la fièvre, tu fous du ciment.
L'État doit veiller sur ces choses-là. Mais la question que nous nous posons est-ce qu'ils sont en train de jouer réellement leur rôle? Point d'interrogation.
Enfin, nombreux sont les observateurs qui estiment que c'est l'absence de réglementation, des stratégies et d'outils efficaces pour la gestion rationnelle de ces produits chimiques qui favorisent l'expansion des maladies liées à ces produits.
Le Mali termine la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec 7 points et s'adjuge du coup la première place de la poule E. Les protégés du coach Mohamed Magasouba ont fait 2 victoires, 1 nul, marqué 6 buts et encaissé 2 autres buts. Les Aigles du Mali affronteront à Suez la Côte d'Ivoire lundi prochain en 8e de finale. En plus du Mali, 15 autres pays se sont qualifiés pour cette phase à élimination directe.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Tessite, dans la région de Gao, où les forains burkinabés continuent à fréquenter la foire de la localité malgré l'arrêt des véhicules sur l'axe Marcoui-Tessite. Ils utilisent les motos pour se rendre à Tessite. Selon eux, l'utilisation des motos n'est pas sans risque, car en plus des braquages dont ils sont souvent victimes, ils peuvent être considérés comme des assaillants par les bandits armés du Burkina ou du Mali. En plus, sur plus de 14 000 consultations médicales prévues, le centre de santé communautaire central de Yoroso n'a reçu que 2 965, soit 20%. Sur 745 femmes enceintes, 513 ont pu faire au moins une consultation prénatale, soit 69%. 441 femmes ont accouché au centre de santé dans les 6 premiers mois, soit 59%. Ces chiffres ont été communiqués le lundi dernier lors de la réunion d'évaluation du premier semestre de l'aire de santé de la commune organisée par les Asako centrales de Yoroso. Plus d'une centaine de paysans ont participé ce lundi à Kadjolo à une rencontre d'échange sur la campagne agricole. Il s'agissait pour les participants de prendre des mesures pour l'obtention des engrais subventionnés par l'État. Les échanges ont porté également sur les modalités de collaboration entre les agriculteurs et le partenaire banquier qui octroie des prêts aux agriculteurs dans le cadre de la campagne. La rencontre était organisée par la délégation de la Chambre locale d'agriculture de Kadjolo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue.